Mais on n'a pas toutes les réponses.
Plein de questions, on n'a pas toutes les réponses.
Les collègues de reconnaître qu'on n'a pas toutes les réponses.
C'est ça qui est de notre podcast. Et moi, c'est ça que j'ai pensé, on n'a pas toutes les réponses. Écoutez-nous.
Vous écoutez On n'a pas toutes les réponses, un podcast qui aborde le féminisme, notre quotidien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, nos réflexions, nos questionnements et nos rêves pour un monde meilleur. On n'a pas toutes les réponses est animé par Nelly Denen, Philippe Levoguet, Pauline Abel et moi-même, Geneviève Latour. Le 5 novembre dernier, nous étions invités dans le cours Travail social, femmes et changement social, un cours offert dans le cadre du programme de travail social de l'Université de Nouveau-Brunswick.
Donc, on va commencer avec notre épisode sur les mythes entourant le féminisme. Et aujourd'hui, on a la chance d'être avec vous dans une classe en travail social. Puis, on va pouvoir commencer une superbe discussion avec vous. Donc, premier mythe, Geneviève, si tu veux nous parler de ton premier mythe.
Oui, je pense qu'un mythe qu'on entend souvent, surtout quand on lance qu'on est féministe, c'est le mythe de l'égalité déjà atteinte. Donc, l'idée, au moins qu'ici au Canada, peut-être pas ailleurs, mais ici au Canada, on a déjà atteint l'égalité entre les hommes et les femmes, et donc, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de féminisme? Fait que ça, c'est le mythe que je lance. Je peux commencer à répondre un petit peu. Donc, moi, il y a deux choses qui me dérangent avec ce mythe-là, là, à part le fait que c'est pas vrai, mais... Il y a le fait que quand on se compare toujours à ailleurs, je trouve ça dérangeant, voulant dire comme il y a d'autres pays qui respectent vraiment pas les femmes, là, mais nous autres on est meilleurs, fait que ça me trouble, puis on pourra peut-être y revenir plus tard. Mais il y a aussi le fait que non, en fait, au Canada, au Nouveau-Brunswick, à Moncton, l'égalité n'est pas atteinte. Puis je pense que c'est important de comme toujours demeurer un peu critique puis avoir comme ces lunettes féministes pour le voir, parce que c'est vrai que des fois ça peut être un peu plus caché maintenant que c'est vrai, les femmes ont le droit de vote, les femmes sont sur le marché du travail, les femmes ont droit à une éducation, il y a comme les congés de maternité, etc. Fait qu'il y a, comme il y a eu beaucoup de gains. Je pense comme féministe, on le sait par exemple qu'on ne peut jamais rien prendre pour acquis. Fait qu'il y a eu des gains qu'on a faits, qu'on est capable de nous retirer très facilement, puis on l'a vu avec différents gouvernements qui sont venus en place puis qui ont enlevé ces acquis-là. Fait que ça, c'est une chose. Mais l'autre, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'en fait, l'égalité n'est pas atteinte. Quelques questions que j'aurais pour vous, par exemple. Quelque chose que j'entends souvent au niveau à l'université, ben non seulement est-ce que l'égalité est atteinte, mais il y a même plus de femmes qui vont à l'université que d'hommes. Fait que ça, c'est intéressant. Hein? Je veux dire, si on est dans un cours de travail social, le travail social, sciences sociales, sciences humaines, un domaine que les femmes ont quand même assez investi. Si on regarde le nombre d'étudiantes dans ce cours-ci, c'est vrai qu'il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. Puis c'est très binaire, là, mon discours en ce moment, parce que j'essaie de répondre à ce mythe-là, mais on sait aussi qu'il n'y a pas juste des hommes et des femmes. Là. Si on regarde aux profs, là, il y a peut-être un petit peu plus une égalité, mais dans beaucoup de départements, il va y avoir plus de profs féminines que de profs qui sont des hommes. Dépendant encore si on va voir génie ou autre chose, c'est pas la même chose. Mais plus on grimpe souvent dans l'hiérarchie, plus on se rend compte au niveau de doyen ou directeur ou recteur, etc., que ça devient de plus en plus masculin dans la plupart des universités. Ça c'est une première son de cloche. Mais l'autre chose qui est intéressante, c'est regarder nos syllabus. Puis regarder... Les lectures qu'on fait ont été écrites par qui? Puis moi, je me souviens quand j'ai fait ma maîtrise, je pense dans tout mon parcours de maîtrise, il y avait peut-être deux, maximum trois textes qui avaient été écrits par des femmes. Fait que je vous invite à faire ça, visiter. Puis je suis sûre dans le cours de féminisme et mouvements sociaux, c'est probablement pas le cas, là. Mais même dans d'autres cours de sciences sociales, de travail social, je veux dire, quand on pense à travail social, souvent les gens pensent travailleuse sociale puis associent une femme. Mais pourtant, l'éducation qu'on reçoit, c'est beaucoup des textes qui ont été écrits par des hommes. Puis il n'y a pas de mal à lire des textes écrits par des hommes, mais c'est important de vraiment aller chercher une variété. En même temps, d'où viennent ces textes-là? Est-ce que c'est des textes surtout canadiens, européens? Est-ce qu'il y a des auteurs qui viennent du Sud, par exemple? Est-ce qu'il y a des personnes de minorité visible, minorité de genre qui ont écrit ces textes-là? Des personnes autochtones qui ont écrit ces textes-là? Puis ça, ça vient vraiment ajouter une perspective complètement différente dans l'éducation qu'on reçoit. Fait que ça, c'est juste comme un exemple au niveau de l'égalité déjà atteinte. Si on pense au niveau de la musique, si on ouvre la radio, on peut penser, ah, il y a autant de femmes que d'hommes. Si on fait vraiment les statistiques, par exemple, c'est plus nuancé que ça. Il y a eu un article de Radcan dernièrement par rapport de Radio-Canada par rapport, dernièrement, comme pendant l'été, là, sur les festivals de musique où, en fait, les headlines étaient majoritairement des groupes ou des chanteurs masculins. Très peu de headlines qui étaient des filles. Ils ont même, comme, selon leurs critères, il fallait juste une fille dans le band pour que ça compte pour un band féminin. Puis c'était des chiffres vraiment, vraiment. Il n'y avait personne qui avait l'équité, là. Puis si on creuse que ce soit entièrement féminin, je veux dire, c'était encore plus bas. Puis souvent, on dit, bien, les femmes ne rapportent pas de l'argent quand ils font de la musique. C'est souvent une excuse qu'on sort. Si je vous pose la question, comme combien de bands que vous suivez, que le drummer, c'est une femme? Tu sais, mais ça, on ne le voit pas parce que le défaut est souvent masculin. Fait que je parlais à quelqu'un, puis je disais, tu sais, dans les manuels scolaires, combien de femmes modèles est-ce qu'on présente au niveau de l'histoire, des sciences, etc.? Puis là, le monde, c'est comme, ben oui, j'ai appris sur Marie Curie. Puis c'est comme, mais oui, t'en as une, parce que c'est tellement inusité qu'il y a eu une femme qu'on se souvient de son nom, tu sais. Mais ça fait pas, c'est pas partout, tu sais. Quand on parle de la guerre, on a noté qu'est-ce que les femmes ont apporté, mais tu sais, c'est pas partout. Puis là, si on parle de combien de personnes noires est-ce qu'on a vu dans nos livres d'histoire de personnes autochtones, à part quand on parle de comme la précolonisation, là. Fait que c'est toutes des questions comme ça, mais il faut vraiment se les poser pour les voir, parce que sinon, c'est facile de penser que l'égalité a été atteinte, jusqu'à temps que vraiment on mette cette lentille-là. Fait que.
Moi, je pourrais rebondir vite fait sur la musique. Pendant l'étude qui a été ressortie, en effet, il y a beaucoup plus d'hommes dans l'industrie musicale qui font carrière, et pourtant, il y a plus de femmes, encore une fois, qui étudient en musique, qui sont dans les conservatoires, etc., etc. Donc, il y a vraiment... Puis là, je parle de la musique, mais vous pouvez faire un rapport avec tous les autres domaines de la vie, mais il y a vraiment une césure qui se fait au moment de la carrière professionnelle, où ben là, après, on pourra parler de la maternité, mais ça, c'est le point culminant de toutes les inégalités, je trouve, en tout cas. Mais c'est dans tous les domaines de la société. Puis, pour les programmateurs de festivals, il y avait... Ça m'énerve beaucoup aussi comme réponse. Il y a certains programmateurs et programmatrices aussi, parce que la discrimination n'est pas juste réservée aux hommes, hein, c'est beaucoup de femmes aussi, qui disaient, on les a pas trouvés, on a fait ce qu'on a pu, et puis... En gros, nous faites pas chier avec ça, quoi. Sauf que c'est une très mauvaise excuse de partir de... J'avais fait le parallèle avec les bus à Moncton, à Dieppe. Ah bah, il n'y a pas assez de gens qui prennent le bus, donc on vous donne pas plus de bus. Bah non, c'est parce qu'il n'y a pas assez de bus qu'il n'y a pas de gens qui prennent le bus. Bah, c'est la même chose dans les festivals. Si tu ne proposes pas au public des artistes féminins, bah, évidemment, ils ne vont pas aller voir des artistes féminins. Donc c'est tout le temps un peu peut-être remettre en question à chaque fois le cercle vicieux du statu quo. Ah ben, bah, c'est toujours été comme ça, on reste comme ça. Puis... Non, quoi, vous avez le droit de poser les questions, puis d'arrêter de rester dans la facilité des privilégiés aussi, c'est ça.
Ben, juste dans comme les quelques minutes que vous avez parlé, vous avez déjà comme vraiment fait des bons points par rapport à comme l'inégalité qui existe toujours. Puis c'est pas la première fois que vous parlez de ça ou qu'on entend parler de ça. Qu'est-ce que vous pensez qui sont les raisons que qu'on a quand même besoin de défendre ça, quand même besoin de lutter ça autant, en considérant que comme ça semble assez évident. T'sais, après que vous avez dit ça, j'assume que pas mal tout le monde pense de la même façon. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il est raison que ça prend tellement d'efforts?
Philippe?
Ben, je pense que surtout si on étudie en travail social, des fois, on peut tomber un peu dans un genre de notre bulle. Puis, on peut penser que tout le monde pense comme nous. C'est un peu comme les réseaux sociaux. Souvent, on va commencer à suivre des opinions. Puis là, finalement, ben, avec les algorithmes, c'est juste les mêmes opinions qu'on va voir. Fait qu'un peu tout le monde reste renfermé ancré dans ses propres idées, mais il faut se rappeler qu'il y a aussi, évidemment, des personnes qui pensent autrement, puis on a juste à regarder les dernières élections fédérales qu'il y a eu, les différentes programme que les partis politiques ont présenté, il y avait quand même des visions assez opposées qui se présentaient. Puis pourtant, de notre point de vue, c'était quand même assez évident qu'il fallait favoriser certaines politiques, disons, plus axées sur la justice sociale. Mais disons qu'il y a encore du chemin à faire parce qu'on le voit dans les idées puis dans les reportages que c'est pas acquis encore.
Puis je pense que c'est toute une question de privilège aussi. Les gens n'aiment pas perdre leurs privilèges. Si on regarde au niveau des emplois, les genres de choses qu'on entend au niveau de l'immigration qui viennent prendre les jobs, ou plus qu'il y a de femmes, moins on a de jobs, des choses comme ça. Puis c'est vraiment puis c'est comme une peur qui est comme diffusée, mais vraiment quand tu analyses c'est quoi les jobs que ces personnes-là viennent prendre, c'est souvent pas les jobs les mieux rémunérés puis les meilleures conditions de travail. Puis d'après moi, l'autre aspect, c'est aussi, on a tendance comme société à beaucoup individualiser les problèmes. Donc, par exemple, il y avait eu une étude il y a comme 5 ans sur, je me souviens pas si c'était aux États-Unis ou en Amérique du Nord, sur le nombre de CEO. Il y avait plus de CEO qui s'appelaient John qu'il y avait de CEO qui étaient des femmes. Fait que c'est même pas comme une question de combien d'hommes versus femmes. Il y a plus de CEO qui s'appellent John. Là, il y avait un autre nom, genre Mark. Puis là, il y avait toutes les femmes arrivaient en troisième place au niveau du nombre de CEO, tu sais. Fait que si on analyse ça, c'est comme, ben c'est quoi les barrières? Puis comme Pauline en a nommé, c'est-tu au niveau service de garde, niveau maternité, c'est-tu par rapport à la façon qu'on pose les questions en entrevue? Puis là, il y a où, quand on voit un niveau systémique, c'est ce genre de questions-là qu'on se pose. Mais souvent, la réaction, c'est plus se poser des questions individuelles. Mais pourquoi les femmes, ils veulent pas devenir CEO? Ah, ben c'est parce que, en fait, les femmes, en général, ils ont moins confiance en elles. Et donc, quand ils voient une liste de critères à remplir, les femmes, il faut qu'ils remplissent 100% des critères quand ils appliquent pour un poste. Tandis que les hommes, habituellement, quand ils ont 60 à 70% des critères, ils appliquent quand même. Les hommes insistent plus pour avoir des promotions. Puis c'est des choses qui sont vraies, mais on blâme l'individu. C'est la femme. On écoutait une entrevue, Phil puis moi, dernièrement, puis c'était un livre qui s'appelait « Lean In ». Puis c'était l'idée que les femmes, tu sais, il faut s'imposer. Oui, on a besoin de se pencher pour vraiment avoir ces promotions-là. Puis on va devenir CEO, c'est facile. Il faut juste comme avoir confiance en nous puis s'imposer. Mais ça, c'est encore, on dit à l'individu de faire un changement. Mais est-ce qu'une femme seule ou une femme noire ou une femme lesbienne, puis je veux dire, on pourrait poser la même question par rapport à des hommes noirs, etc. Là, John puis Mark, c'est pas des minorités visibles. Mais c'est ça, c'est qu'on blâme l'individu pour dire la raison pourquoi il n'y a pas beaucoup de rectrices au niveau des universités, c'est juste parce que les femmes n'appliquent pas vraiment à ces postes-là, tu sais. Mais pourquoi ils n'appliquent pas à ces postes-là? Est-ce que c'est vrai qu'ils n'appliquent pas à ces postes-là? Est-ce que c'est vraiment pas une question systémique? Fait que je pense qu'il y a un peu ça qui se passe. C'est pas la faute de comme, tu sais, je pense qu'il y a vraiment des groupes qui bénéficient du fait que les femmes ont moins de pouvoir, mais c'est pas toujours comme aussi insinueux. Je pense que c'est juste comme on prend pour acquis, ben c'est parce que les femmes veulent pas, ou les femmes, c'est comme ça que ça se passe, puis ils sont bien comme ça, tu sais, fait qu'on se questionne pas au niveau systémique souvent.
Puis je pense qu'une autre chose qui, puis ça va faire le lien avec notre prochain meet justement. Moi, c'est une question que je me pose tous les jours, et encore encore plus dans les dernières années parce que c'est devenu mon travail. Mais de savoir, puis encore, moi, je me considère comme, je suis probablement dans la même génération que vous aujourd'hui, puis de penser qu'on est encore en train de parler de certains enjeux dont on traitait dans les années 70, puis dans les années 60. Mais une question qui pourrait l'illustrer, si je vous demande à main levée, là, qui a entendu parler de féminisme dans les 5 dernières années? Premier contact avec le féminisme dans les 5 dernières années, levez la main. La majorité, hein. Fait, on nous apprend pas non plus ces notions-là. Moi, mon premier contact avec le féminisme, puis je pense que mes collègues, c'était, oui, ben, mon parcours personnel, mais concrètement, les mots, la théorie, c'est arrivé à l'université seulement. Puis pourtant, on sait que bien avant l'université, on est confronté à certaines inégalités. Puis on n'a pas le vocabulaire, on n'a pas les mots, mais je suis sûre que quand on est à l'école, à la petite école, ou quand on est au secondaire, on fait face déjà à nos premières inégalités. C'est juste qu'on ne nous apprend pas à les nommer. Ça revient un peu à l'exercice qu'on vous avait fait plus tôt tout à l'heure. De nommer, ça revient à aussi comprendre la réalité. Mais si tu as une majorité de personnes à qui on n'apprend pas ça, ben, ça va prendre longtemps avant qu'on se dise que l'égalité, effectivement, n'est pas atteinte, puis il faut qu'on continue de lutter pour ça. Donc, ça ralentit. Il y a toute une question d'éducation. Ce qui nous amène aussi à notre deuxième mythe. Philippe, est-ce que tu pourrais nous en parler?
Oui, puis corrigez-moi si la formulation est pas comme on avait discuté, là, mais que les féministes haïssent les hommes ou détestent les hommes. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ça? Ouais. Tout le temps, oui. Non, c'est vrai. Comme, je trouve, moi, je ne l'entends pas souvent dans le milieu où je gravite, mais quand j'écoute certains médias ou certaines postes de radio, c'est toujours les mêmes stéréotypes qui sortent. Puis, je ne peux pas parler pour toutes les personnes qui s'identifient comme féministes. Il y en a peut-être qui les détestent ou qui en détestent certains. Puis ils ont peut-être des très bonnes raisons de se sentir comme ça aussi. Mais de mon expérience personnelle, moi, j'ai toujours senti qu'il y avait une place pour les hommes qui étaient prêts à reconnaître leurs privilèges puis prêts à vouloir apprendre. Parce que je pense que c'est ça. Il ne faut pas s'attendre, les gars, à recevoir une carte d'invitation. Genre, « Ah, oh, toi, t'es un gars, on est super inclusifs, nous autres, notre groupe de féministes, on aimerait ça, vraiment ça que tu viennes. » Comme, évidemment, il y a plein de luttes déjà à mener, donc ils ont pas les militantes n'ont pas le temps de comme nous accrocher puis de dire, « Hey, viens, je pense que tu devrais venir. » Ils ont déjà comme pas mal de choses sur leur assiette. Fait que je pense que nous, ce qu'on peut faire, les hommes ou les personnes qui s'identifient en tant qu'hommes, c'est de, en premier, être curieux, s'intéresser à aller faire des lectures ou demander à nos amis qui s'identifient comme féministes, « Ah, j'aimerais ça, comment savoir plus, peux-tu me recommander des lectures ou des podcasts ou des émissions à la télé, n'importe quoi. » Puis après ça, ça peut être assister à des conférences, puis tranquillement participer à différents événements. Puis une fois qu'on est dans des espaces féministes, faut encore, parce que ça arrive des fois encore, puis on en parle des fois, qu'il y a des hommes qui ne sont pas conscients de leurs privilèges, qui vont prendre beaucoup la parole, ou qui vont, tout de suite après une conférence, il y a une période de questions, puis là, souvent, il y a une petite période où personne ne veut vraiment poser la première question, puis là, finalement, quelqu'un qui va la poser, puis c'est correct que ce soit un homme, mais en même temps, si c'est un enjeu qui touche principalement les femmes, puis que c'est la conférence ou l'événement cible plutôt les femmes, un enjeu féminin, ça ferait du sens de laisser la parole aux personnes qui sont touchées par cet enjeu-là d'abord. Puis, juste être conscient de ces choses-là, parce que des fois, je vois des hommes, souvent c'est des hommes plus âgés qui sont peut-être pas conscients, mais qui prennent beaucoup la parole, puis ils vont poser plein de questions, puis ils accaparent tout le temps de la personne ou de l'événement. Puis là, finalement, on n'a pas eu le temps de discuter des questions peut-être qui auraient été plus pertinentes. Puis les gars, si vous voyez un de vos amis ou masculin ou quelqu'un le faire, ben, vous pouvez aussi juste peut-être lui dire au vestiaire ou après qu'il a posé sa question, c'est correct de poser des questions puis d'être curieux, mais en même temps, c'est s'éduquer avant, lire, puis être conscient, pas juste poser des questions, puis s'attendre à ce que les personnes aient le temps de nous répondre tout le temps. Il faut aller chercher l'information. Puis après ça, c'est de justement être conscient de son espace, puis de ses privilèges, puis savoir quand intervenir.
Les luttes féministes sont des luttes sociales. Si vous êtes en travail social, je pense que vous avez un minimum de base de comment fonctionne le monde et comment sont qu'est-ce qui se passe dans le monde, les discriminations. Donc, on veut tous un monde meilleur, j'imagine. Donc, je ne sais pas, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, j'ai hâte de rencontrer plus d'hommes qui s'assument féministes et qui aussi savent sortir de la bulle de privilégiés. Puis moi, je dis ça pareil avec les femmes autochtones ou les femmes noires. Si j'étais à une conférence... Puis là, je parle d'un événement vécu que j'ai vécu cet été. Sommet des femmes, pour ne pas le citer. Mais première question du sommet des femmes, c'est ça. La première personne qui a accaparé le micro pendant 10 minutes, c'était un homme blanc. Moi, j'étais en furie. Là. J'étais là, mais il va pas se taire. Enfin, Puis c'était pas le fait que c'était pas intéressant, c'était très intéressant ce qu'il disait, il n'y a pas de souci avec ça, mais il ne s'est pas posé une seconde la question, oh, est-ce qu'il y aurait des jeunes femmes dans la salle ou des femmes qui prennent jamais la parole? En plus, cette personne-là a déjà un haut poste, donc il a l'habitude d'avoir la parole. Puis ça, c'est un gros manque de remise en question, je trouvais. Et c'est ça qui fait du mal à notre société aussi, là, de se dire, hey, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont moins de privilèges que moi, au niveau systémique, là, donc peut-être faire cet effort. Donc, j'aurais trop de trucs à dire là-dessus, là, mais je vais arrêter.
Je voulais ajouter que je pense que c'est bénéfique pour la majorité des hommes aussi d'être féminin. Je pense que beaucoup d'hommes ont à gagner de faire partie de ce mouvement-là. Puis, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui subissent de l'oppression aussi, de différentes façons. On pense souvent aux féministes comme étant des enjeux qui touchent seulement les femmes, mais non, c'est des enjeux de société. Quand on parle de pauvreté, puis de colonialisme, puis de violence, il y a beaucoup d'hommes que ce soit parce que à cause de leur orientation sexuelle ou à cause de leur milieu, leur classe à laquelle ils font partie, ils subissent aussi beaucoup de violence, pas nécessairement physique, mais morale. Souvent, on n'a pas les mots non plus pour parler de ces choses-là parce qu'on est socialisé en tant qu'homme pour justement repousser ces émotions-là, repousser ces choses-là, puis juste devenir dur à l'extérieur. Fait que je pense que oui, il y a beaucoup d'avantages à faire partie de ce mouvement-là.
Donc, est-ce que vous pensez qu'une partie de la raison pourquoi ce mythe-là existe, c'est à cause d'une certaine peur de certains hommes d'un renversement un peu de la domination, parce qu'ils pensent qu'un monde féministe, c'est pas nécessairement un monde égalitaire, mais plutôt un monde avec les femmes en domination, parce qu'en ce moment, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que c'est plus un monde patriarcal, donc avec une domination des hommes. Donc, est-ce que ce serait une situation comme ça?
Oui, je pense que... Puis il y a une raison pourquoi ce genre de peur-là existe, c'est que c'est nourri, ce genre de peur-là. Puis je le vois des fois sur les médias sociaux, le genre de matériel qu'on retrouve, qui n'a pas de source, mais qui nous invite à croire. Faites attention, le Canada, c'est un matriarcat. Les hommes n'ont plus de pouvoir, on est tout en train de perdre. Puis, je veux dire, dès que tu sens que tu as perdu quelque chose, puis c'est souvent ça, Phil le dit, le 99%, là, on est opprimé. Fait que c'est certain qu'on ne veut pas perdre de pouvoir. Puis là, de se faire dire, ah, je vais en perdre encore plus, mais c'est de, tu sais, il faut se questionner, c'est qui vraiment qui a le pouvoir? Est-ce que c'est les hommes, est-ce que c'est les femmes, ou est-ce que c'est les plus riches, est-ce que c'est les plus pauvres, etc. Fait que je pense qu'il y a certainement cette peur-là. Puis si on revient un peu à ce que moi je parlais, quand on n'a pas la lunette féministe, à chaque fois que les femmes font une avancée, on a l'impression qu'ils ont plus de pouvoir, tu sais. Mais c'est juste parce qu'on est tellement habitué de ne pas remarquer qu'ils sont présentes que là, la fois où il y a eu 70 % de femmes à quelque part, c'était comme « Wow, où étaient les hommes? » Mais on ne posait jamais la question quand il y avait 70 % ou 100 % d'hommes « Wow, où étaient les femmes? » Tu sais. Mais c'est tellement inhabituel qu'on le remarque beaucoup quand les femmes font des avancées. Et malheureusement, on est dans une société où le pouvoir, on pense que c'est quelque chose qui s'arrache ou qu'on a un montant limité, et donc si les femmes ont plus de pouvoir, ben c'est qui est en train de perdre? Tandis que le mouvement féministe, souvent, le pouvoir, c'est vraiment un pouvoir collaboratif. C'est pas parce que moi, tu sais, quand on parle de empowerment en travail social, ben si on accompagne une personne, puis qu'on parle d'empowerment, elle est pas en train de me voler mon pouvoir, elle est juste en train de prendre son propre pouvoir, là. Elle enlève du pouvoir de personne d'autre. Fait que c'est pas nécessairement une équation, là, à ce niveau-là. Je pense qu'il y a aussi toute la question de privilège. Puis quand Phil puis Pauline vous parliez, ça me fait aussi penser, je parle beaucoup de violence dans mon travail, puis il y a toujours quelqu'un qui est comme, puis les hommes là-dedans, puis c'est comme, oui, mais je suis ici pour vous parler de violence faite aux femmes. Mais je veux dire, on est tellement habitué de devoir souligner les hommes que quand on le souligne pas, on le prend comme une offense, tu sais. Même si le sujet, c'est la violence fondée sur le genre ou la violence faite aux femmes, ou au contraire,
des hommes qui sont tellement habitués d'être félicités d'avoir fait quelque chose que si on les remercie pas, se sent comme si on n'apprécie pas tout ce qu'ils sont en train de faire. Pourtant, les femmes ont été socialisées de faire tout ce travail de soins-là, puis ce travail invisible-là. Il y a une raison pourquoi on appelle ça du travail invisible. On se fait pas remercier pour ce travail-là. Le monde le savent même pas qu'on est en train de le faire, tu sais. Fait que je pense que tout ça aussi, qu'il y a certains hommes qui sont pas habitués de donner tellement de leur temps puis pas de recevoir de remerciements. Puis je pense que c'est important de remercier tout le monde, là, si on est capable de le faire. C'est juste, Phil le dit, des fois, tu es tellement dans l'action que tu n'as pas le temps d'aller voir tout le monde. Ou, tu sais, si on fait comme un parallèle, si moi, j'assiste à une conférence par rapport à l'histoire de l'esclavagisme puis les répercussions encore aujourd'hui pour les communautés noires au Canada, ben, je vais pas être comme, vous avez pas parlé beaucoup des Blancs pendant votre conférence? Ben, tu sais, c'était pas ça le but, c'est un, par rapport à la sexualité chez les personnes vivant avec un handicap, de poser la question. Ben, je trouve ça plate, là, que les personnes qui ont pas d'handicap étaient pas très incluses dans, mais pourtant, on entend ça comme féminisme toujours, mais pourquoi vous parlez pas des hommes? Parce qu'on est tellement habitués qu'on en parle tout le temps, que quand on n'en parle pas, ben, c'est comme un choc de se dire, ben, ils sont pas très inclusifs, eux autres. Fait que je pense qu'il y a aussi un petit peu ça, des fois, là, qui vient renchérir ce mythe-là. Puis c'est sûr, comme, si tu viens à un cercle de, un groupe de soutien au niveau de la violence sexuelle, tu vas entendre des survivantes dire des choses comme, j'en reviens pas, qu'il y a des hommes qui font ça. Puis s'il y a des hommes dans la salle, ils pourraient prendre ça vraiment dur, mais c'est leur réalité. Ils ont vécu des choses atroces par des hommes. C'est normal qu'ils ont cette réaction-là. Puis si on n'est pas prêt à entendre ça, ben on peut se dire, waouh, il y a vraiment de la haine des hommes dans ce groupe ici, tu sais. Mais c'est pas ça l'objectif, c'est de faire la différence entre, il y a eu un agresseur, un amuseur, puis de dire, tous les hommes le sont. Je veux dire, je connais pas de regroupement féministe au niveau de la violence qui vont dire que tous les hommes sont des abuseurs, là. Fait que je pense qu'il faut aussi comprendre les nuances, mais pas toujours dire comme, pas tous les hommes sont ici, s'il vous plaît. Tu sais, je pense que c'est important là, de reconnaître sa place.
Oui, donc on va passer au prochain mythe. Puis je vous rappelle, n'hésitez pas à venir en avant. Prochain mythe, c'est un mythe que vous avez peut-être aussi entendu, là, dans la même lignée que les féministes n'aiment pas les hommes, on a aussi les féministes sont hystériques, puis brûlent leurs brassières, puis sont toujours en colère. Est-ce que vous en avez entendu parler de ce mythe-là? Oui, hein? C'est pas mal. C'est, collectivement, j'ai l'impression que c'est un des mythes qu'on entend souvent. Moi, en tout cas, c'est un mythe, une phrase que je me suis souvent fait dire. C'est comme, ah, ben, il y a deux choses que je me fais dire. Soit je me fais dire, ah, c'est drôle pour une féministe, t'es comme plus joyeuse que ce que je pensais. Ah bon, ok, ben, je suis plus joyeuse. Ou sinon, à l'inverse, c'est, ah, ok, mais vous êtes toujours en colère au final, comme à quel moment vous allez être satisfaite? Puis ça relie un peu, vous le voyez là, les trois mythes dont on a entendu parler, c'est que, effectivement, il y a de la colère. Les féministes sont en colère. Puis, à entendre parler Geneviève, il y a juste 5 minutes de la violence, je pense que vous comprenez pourquoi il y a de la colère. Ce qu'il faut comprendre, c'est la colère, ça a souvent été un sentiment qu'on a beaucoup invalidé. On l'a invalidé, on l'a délégitimé aussi, parce que c'était des sentiments qui étaient associés au genre féminin. Puis là, je ne ferai pas le cours sur la socialisation, vous l'avez eu, mais où on avait justement une façon de concevoir toutes les caractéristiques féminines, puis une façon de concevoir toutes les caractéristiques masculines, puis ben, la colère, l'hystérie, le fait d'être trop sentimental, de ne pas être rationnel. Et donc, avec toutes ces caractéristiques-là, ben, ça fait en sorte que ben, on n'est pas apte à faire certaines choses. Ça veut dire qu'on ne peut pas travailler dans des domaines, par exemple, qui demandent de l'ingénierie. Hein, c'est des domaines qui ont été majoritairement, historiquement, dominés par des hommes. Parce que les caractéristiques associées à ces domaines-là n'étaient pas des caractéristiques qui venaient renforcer ce qu'on entendait par une femme. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est cette hystérie-là. Ben, on parle aussi de santé mentale quand on parle d'hystérie. Puis ben, la santé mentale, ça a été quelque chose qui a fait en sorte de vraiment retirer les femmes de la sphère publique. Donc, il y avait cette façon-là de concevoir que quand une femme n'était pas dans la norme, quand elle cadrait pas dans le modèle qu'on voyait, donc une femme qui était mariée avec un mari, des enfants, ben on appelait souvent à une hystérie. Donc, une femme qui ne cadrait pas dans le modèle nucléaire. Et cette hystérie-là était souvent associée à la maladie mentale. Puis la maladie mentale, ben, on avait et on a encore énormément de difficultés à soigner ou à comprendre quand ce sont des femmes qui la vivent. Parce que justement, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui me parlent d'à quel point c'est difficile de diagnostiquer certaines maladies mentales parce qu'elles sont souvent associées à un trait de personnalité de la part des femmes. Ah, t'es dépressive ? Ah, mais non, mais c'est juste parce qu'elle est faible. c'est pas une maladie à proprement parler. Puis ça, ça a été pendant des années. Puis imaginez-vous, là, c'est historique. Ça, ça veut dire que ça fait des siècles et des siècles et des siècles qu'on pense comme ça, de par l'école, de par les politiques, de par le gouvernement. Fait que c'est beaucoup de facteurs, beaucoup de secteurs qui font en sorte de renforcer cette idée-là. Puis ben, c'est là où on arrive dans un mythe où, au final, ben, les femmes, particulièrement les féministes, sont hystériques, toujours en colère et brûlent leurs brassières. On parle aussi de toute une façon de concevoir l'action politique quand on parle des féministes qui ne cadraient pas non plus. Donc il y avait toute une façon de revendiquer. Puis c'est vrai, il y a eu des revendications à travers l'histoire qui ont été moins gentilles, disons. Où il y avait vraiment une organisation de la part des féministes pour réclamer certains droits et qui se sont faits de manière à mettre pression sur un pouvoir bien établi. On peut penser à la lutte pour le droit de vote. Beaucoup pensent que la lutte pour le droit de vote, c'est juste demandé puis a été octroyé. Mais non, 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 il y a eu des luttes. Il y a eu des luttes, puis il y a eu des luttes parfois violentes pour réclamer ce droit-là. Et par contre, ce que l'histoire et ce que ce mythe-là oublie de dire, c'est que cette lutte-là, ce n'est pas fait en tuant des gens. La violence dont on parlait, la violence qui a été utilisée par les féministes, était à l'endroit d'institutions. Fait qu'on parlait de sit-in, on parlait d'action directe. Donc ça, ça peut être par exemple de casser une vitrine. Mais on ne parlait pas de tuer des gens, d'enlever des gens. Puis ça me ramène un peu au mythe qu'on a entendu plus tôt, où il y a une auteure qui dit que le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours. C'est Benoît de Groux qui a dit ça. Puis je pense que c'est une phrase qui illustre bien les choses. Le féminisme n'a jamais fait à l'encontre de quelque chose ou à l'encontre d'enlever des droits à des populations. Le machisme, par exemple, ou la misogynie, ou le masculinisme, lui, s'est fait par la haine, par l'enlèvement, le viol. Puis là, on peut parler vraiment d'une violence innommable qu'on a encore beaucoup de difficultés à nommer. Et ça, c'est ce mythe-là.
Moi, j'avais une question plus générale. C'est comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser ou conscientiser comme la population générale face à ça? Parce qu'avec les réseaux sociaux, les médias, souvent la mauvaise information est partagée. Puis même si on arrive, par exemple, avec des statistiques, des documents scientifiques, même si on a un rapport dans nos mains, les gens vont juste dire « Non, c'est pas ça. Moi, je vois que les femmes sont égales. Je vois que l'homophobie, ça existe presque plus. » Peut-être que c'est les plus vieilles générations, quand ils ne seront plus là, ça n'existera plus, ces choses-là. Fait, comment est-ce qu'on fait pour comment est-ce qu'on fait pour combattre un peu ces mentalités-là, ces discours-là?
Ben c'est drôle, parce que ça ramène vraiment notre premier épisode qui portait justement sur la colère, puis on s'est mis à parler justement de ces personnes-là qui avaient des données, puis qui jouaient vraiment à l'avocat du diable. Puis on dirait que parfois, c'est comme un jeu, puis tu le sens, là. T'es dans un bar, t'es là, c'est connu que t'es féministe, puis il y a quelqu'un qui vient, puis il est comme « Ouais, finalement, les femmes en politique, là, c'est pas vraiment vrai, ça. C'est à compétence égale, faudrait que ce soit la personne la plus compétente. » Puis tu sens que c'est simplement pour démarrer. Il n'y a pas d'ouverture. Moi, pour moi, ça, c'est des avocats du diable. Puis j'avoue, humblement, puis tu sais, ça passe en ondes. Moi, les avocats du diable, j'ai plus de patience. Moi, je trouve que c'est plus à moi de gérer ça, les avocats du diable. Je souhaite qu'il y a d'autres personnes qui ont énormément de patience puis qui pensent que des avocats du diable peuvent changer, mais des gens qui prennent plaisir à essayer de te faire démarrer sur quelque chose d'aussi fondamental, hommes et femmes, ouais. Dans ce rapport-là d'altérité, moi, ça, je me dis non. Ceci étant dit, puis c'est là où ta question est essentielle, c'est que évidemment, il faut qu'on continue à sensibiliser. Puis évidemment, il faut qu'on continue à conscientiser. Puis pour moi, je fais vraiment la différence entre les deux. Tu peux diffuser de l'information. T'sais, nous, au regroupement, ou nos deux organisations, on fait souvent ça, là, mais on fait des cartes, fait que, des définitions, des statistiques. On essaye de comme, vraiment venir démystifier qu'est-ce qu'on fait, puis c'est quoi notre travail, puis pourquoi l'égalité n'est pas atteinte. Ça, pour moi, c'est comme la sensibilisation. Là où on vient faire de la conscientisation, c'est quand on va être en relation, selon moi, puis qu'on va vraiment donner des outils aux personnes en face de nous, à qui on s'adresse, pour elles-mêmes s'outiller, puis elles-mêmes comprendre pourquoi il y a encore des inégalités. Puis là, on peut aller chercher le vécu, par exemple. Parce qu'on en a toutes un vécu. Puis on a toutes, à un moment donné ou à un autre, été confrontées à la discrimination, au sexisme, au racisme, à de l'homophobie. On le voit, on vit dans une société qui est encore empreinte de ça. Fait que ça, pour moi, on passe à un autre niveau, à la conscientisation. Où là, on va vraiment plus outiller les gens à poser des actions concrètes, à vraiment passer de l'étape de « Ok, j'ai l'information. Oui, ok, il y a peut-être les inégalités existent encore. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour faire en sorte que ça n'existe plus ?» Puis là, je pense que là, les organisations féministes ont un rôle à jouer, mais aussi en tant qu'individus ou des groupes, affinitaire, donc des petits groupes qui décident de se constituer comme un podcast autour d'un salon ou le comité de travail social qui décide de se mobiliser pour la journée du 6 décembre puisque ça va être les 30 ans de Polytechnique. Et ça, je pense que ça peut être des actions tout aussi importantes puis nécessaires. Puis ça permet d'aller rejoindre un autre pan de la population qui est encore plus nombreuse que les avocats du diable, qui sont à la recherche, qui sont comme entre les deux, sont pas contre, mais on n'en a tellement jamais parlé. On n'en a tellement pas, on n'a tellement pas d'outils depuis, t'es en étant jeune, ça fait pas partie de notre culture quand on est à l'école, on n'entend pas parler de féminisme jusqu'à très tard à l'université. Je pense que là, il y a un autre rôle à jouer.
Ben, je prends l'exemple des robes rouges, par exemple, qu'on a fait sur le campus pour souligner, puis reconnaître les. D'ailleurs, c'est une activité qui part de Geneviève ici à l'école. C'est elle qui a commencé cette activité-là, puis c'est une activité qui se poursuit. Alors, je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est, des fois, c'est difficile dans l'individuel ou dans les soupers. On a déjà parlé de ça, hein, dans les soupers de famille, avec nos amis. Là, on est en train de défendre, puis là, on s'aperçoit que ça devient comme très émotif. Puis, donc, c'est difficile de faire de la sensibilisation dans ces contextes-là. Mais il y a d'autres contextes qu'on peut utiliser dans notre travail, même dans nos relations, puis même comme servir de modèle aussi. Lorsqu'on sert de modèle sur des questions d'égalité, on pense que peut-être les autres ne le voient pas, mais elles vont le voir. Quand moi, je vais au marché, puis j'arrête à discuter avec, je ne sais pas, rien d'exceptionnel, mais je prends le temps de discuter avec les personnes qui sont là, assises à terre, puis qui fait froid, puis qui ont faim, puis... comme je vous ai dit, ça me dérange pas, moi, de leur donner à 5 $ puis je leur demande pas qu'est-ce qu'ils font avec. S'ils veulent acheter de l'alcool, des cigarettes, c'est leur problème. C'est même pas un problème, c'est leur décision. Alors, je donne pas pour... Donc, c'est comme ça aussi pour le féminisme. Des fois, c'est difficile de faire comprendre. T'sais, on voudrait se donner cette mission-là, puis je l'ai portée, vous l'avez portée, et c'est vraiment fatigant. On s'épuise à faire ça, vraiment. Je trouve le militantisme, il faut savoir, lorsqu'on est militante, puis qu'on veut, on croit des causes, il faut être capable de trouver nos moyens pour le faire, pour pas non plus trop s'épuiser, je pense.
Je pense que ça dépend aussi de notre personnalité, je veux dire. Phil puis moi, on est souvent au même repas de famille, là. Disons, c'est ce setting-là typique. Puis, comme on a différentes approches quand ça vient à ça. Comme moi, je suis très directe. Si tu dis quelque chose que je suis pas d'accord, je vais te le dire. Comme c'est quoi ta source? Je suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Puis, si ça va trop loin, je vais te dire, je veux plus en parler. Too bad. Je suis en désaccord avec toi. Ça, c'est mon opinion. That's it. Puis, Phil, souvent, lui, il va être plus, tu sais, dire, ben, tu sais, est-ce que tu as pensé à cet exemple ici? Ou, puis, les deux approches ont leur valeur. Mais, c'est que souvent, on se fait dire « Ah, oh, vous n'êtes pas assez sensible. » Mais moi, je ne la prends pas, cette excuse-là. La sensibilité, ça ne fait pas partie de ma personnalité. Moi, je suis très blunt. Fait que je vais te le dire comme je pense. Si j'entends un commentaire par rapport « Ah, oh, on le sait bien, depuis qu'il y a des syndicats partout, ça va mal. » Ben je vais te le dire tout de suite. Des commentaires anti-syndicalistes, moi, je ne les accepte pas. T'sais. Tandis que quelqu'un d'autre pourrait plutôt prendre une approche comme « Ah, oh, ben je suis curieux, peux-tu m'en expliquer plus? » Ah ben c'est grâce au syndicat si on a obtenu des congés de maladie. Puis, je veux dire, les deux approches ont leur place, mais je ne pense pas qu'il faut être gêné de juste tout de suite dire son opinion tout de suite. Puis, l'autre chose qui est intéressante avec ces fameux repas-là où il y a une personne, souvent c'est plus une personne, bien, c'est après ça, c'est d'aller voir les autres, tu sais. Puis, souvent, quand je vais, par exemple, chez mes sœurs après, puis on a une discussion, mais c'est là où c'est vraiment intéressant. Puis quelqu'un va me dire « Hey, je t'ai entendu parler du mouvement syndical, j'avais jamais vu ça comme ça, peux-tu m'en parler plus? » Puis c'est ces discussions-là qui, pour moi, sont super riches, que si j'avais pas pris la parole pour dire qu'est-ce que je pense. Souvent, par rapport à la défense des animaux aussi, c'est quelque chose là, que je vais dire mon opinion, puis c'est comme « Ah, ben les animaux, c'est pas vraiment des humains, nanana. » Bon, ben c'est correct, on n'a pas besoin d'en parler davantage. Mais là, après ça, il y a des gens qui viennent me voir comme « Hey, je suis intéressée, comme droit des animaux, j'ai jamais vraiment pensé. Qu'est-ce que pourrais-tu m'en parler plus? » Fait que c'est ça qui est important dans la discussion. C'est pas qu'on va conscientiser tout le monde nécessairement, mais c'est qu'on est en train de. Ça a résonné où il y a. Des fois, c'est juste comme une graine qui a été plantée, puis là, il va faire une lecture plus tard, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui va en parler. C'est ça. Fait que je pense que ça vaut la peine de toujours dire quelque chose, même si c'est un avocat du diable, puis de dire, ben en fait, moi, je suis en désaccord avec ça, puis ça ne me tente pas d'en parler. Ben au moins, il y a quelqu'un d'autre autour de la table qui va se dire, OK, ben il y avait une autre personne en désaccord. Mm-hmm. Puis peut-être je vais aller la voir plus tard, peut-être pas, peut-être je vais aller lire. Mais c'est ça qui est important. Fait que est-ce qu'on va réussir à changer tout le monde? Il y a des forces vraiment immenses en ce moment je veux dire, des personnes riches, des personnes anti-immigration ou des hommes qui ont très peur de perdre le pouvoir, qui propagent des messages très, très forts puis qui ont les moyens de le faire. Nous, on est comme des militants sur le terrain, là. Fait que je pense qu'il faut prendre les succès qu'on a aussi. Puis c'est correct sur les médias sociaux. Il va toujours en avoir des commentaires avec lesquels on est en désaccord. Quand tu as l'énergie, tu peux les adresser. Si tu n'as pas l'énergie, je pense pas qu'il faut se sentir coupable d'avoir rien dit aussi, là.
Oui, je pense que c'est important de choisir ses moments.
C'est ça.
Puis, mais pas laisser ses, tout à fait, pas laisser c'est ses ça. Convictions de côté, oui. Et mais d'être capable de dire, je suis pas d'accord. Mm-hmm. Puis quand on voit que ça va pas quelque part, ben ouais, absolument, je suis d'accord avec toi, Geneviève.
Ben, je pense que tu as touché un bon point aussi sur nos propres capacités. Puis, tu sais, plus on fait de la militance, plus on les connaît, ces capacités, puis ces limites-là. Puis c'est important d'être à l'affût de ça. Parce qu'effectivement, le burn-out militant ou l'épuisement militant, c'est réel. C'est une vraie problématique. Ça existe. Moi, j'en ai vu beaucoup. Moi, j'ai beaucoup milité dans le mouvement étudiant, puis j'en ai perdu des amis, là, puis perdu au sens propre. Fait que je pense que c'est super important d'être à l'affût de ça. Mais en même temps, tu sais, pour chaque avocat du diable, il y en a 10 autres là, personnes qui sont prêtes et prêtes à en entendre parler, puis qui veulent en discuter, qui sont de bonne foi, qui connaissent peut-être pas ça, mais qui aimeraient en apprendre davantage, parce qu'on n'a pas non plus toutes les mêmes capacités d'accès à cette information-là. Ça aussi, tu sais, je pense qu'il faut être consciente de ça. Nous, on a le privilège aujourd'hui de parler dans une université, mais je pense qu'il faut se souvenir qu'il y a aussi la majorité de la population du Nouveau-Brunswick qui n'a pas forcément accès à ces bancs d'école, puis à ces endroits-là pour parler, puis échanger sur des statistiques puis des études. Fait que c'est important de prendre ce temps-là, mais toujours en étant consciente de nos moyens puis de créer des activités. Il n'y a pas mieux que d'aller rejoindre d'autres personnes pour t'aider. L'action individuelle est super importante. Là, répondre à un message Facebook, ça peut avoir sa valeur. Moi, je pense qu'on retrouve énormément de valeur dans le collectif. Donc, d'aller se chercher 2, 3, 4 amis, 5 amis, puis à un moment donné, ça devient un groupe. Puis je pense que nos organismes ont tous été fondés de même. C'est des personnes qui se mettent ensemble puis qui se disent « Ah, ben on a de l'affinité sur tel thème, ça serait bien de faire quelque chose. » Symbiose, c'est la marche du 27 septembre, c'était grandiose. Ben, ça part d'individus qui se sont dit « Ok, mais faut faire quelque chose. On peut pas rester silencieuse. » Ben, je pense que de garder ça en tête, ça fait son petit chemin. Puis aujourd'hui, on a parlé énormément des mythes. Là, on a mis beaucoup de l'avant, là. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, là où on a besoin d'améliorer, mais il y a aussi beaucoup d'avancées qui ont été faites par les mouvements féministes, puis je pense que ça aussi, ça fait partie de notre devoir de rappeler qu'on n'a pas avancé dans le vide. Oui, le chemin est long. Oui, encore en 2019, on en parle. Malheureusement, le 2015 de Trudeau n'a pas marché. Là. On est en 2015, donc on a réalisé. Ben non, on en a encore des inégalités, mais on avance. On avance à petits pas, mais on avance. Parfois, on fait des pas gigantesques. Parfois, il y a des ressacs. Mais ça fait partie de l'histoire d'un mouvement social. Parce qu'il ne faut pas oublier, le féminisme, c'est avant tout un mouvement social qui a des contradictions, qui a fait des erreurs, qui s'est relevé, qui continue, qui avance. Puis à l'image de notre société, je pense.
Qu'est-ce que vous venez de dire? Je trouve que c'est bien et c'est important qu'on l'entende maintenant par rapport au militantisme, de s'arrêter un peu avant de s'épuiser. C'est bon qu'on l'entende maintenant parce que justement, on pourrait être trop emporté puis essayer de donner d'énergie dans quelque chose qui ne vaut pas la peine. Tandis qu'il y a 10 autres personnes, comme vous l'avez mentionné à côté, qui, eux, sont prêts à entendre le message ou veulent aller dans le mouvement féministe. Fait que c'est important justement que vous nous le dites. Là, on est rendu dans notre parcours pour qu'on le garde en tête.
C'est pour revenir sur ce que Pauline avait dit pour notre petit ami au sommet. Là. comment est-ce qu'on peut s'assurer que les hommes ne monopolisent pas le mouvement féminisme comme de mauvaise manière? Genre, comme si, peut-être qu'ils s'identifient au féminisme, mais comme ce qu'il a fait, c'était vraiment pas correct. Là. Comment est-ce que tu peux... Comme,
je pense pas que j'ai la réponse exacte à ça, là. Mais peut-être c'est encore plus en sensibilisant tout le monde. Je m'étais dit, ah bah, pourquoi moi, à la limite, j'ai pas pris la parole pour dire s'il te plaît, peux-tu arrêter maintenant? C'est où est-ce que... Mais tu sais, dans ma tête, j'étais là, ah, mais si je le coupe, ça se fait pas non plus. C'est peut-être juste nous sensibiliser tous et peut-être que les organisateurs ou quelqu'un qui a plus de pouvoir, je sais pas, quelqu'un qui est à l'aise, comme disait Geneviève, ne pas avoir peur de prendre la parole et d'arrêter la personne aussi. De dire, mais gentiment, là, pas le tabac ou quoi que ce soit, mais dire, ah, excuse-moi, merci beaucoup, mais ça, c'est pour cet exemple-là. Mais après, pour le mouvement féministe en soi, je peux pas répondre, je vais laisser les filles répondre à ça, mais par contre, j'ai une petite. J'avais des amis garçons aussi qui disaient, bah oui, mais parce qu'il y a la GA du regroupement féministe tous les ans. Tout le temps, je demandais à mes amis gars, venez et tout. Enfin, oui, t'as pas le droit de vote, mais tu peux participer aux discussions, tu peux venir t'intéresser et tout. Puis dès que je disais oui, t'as pas le droit de vote, ça y est, c'était le truc qui les faisait monter au rideau. C'était ok, quoi? Vous dites que vous êtes un mouvement égalitaire et on n'a pas le droit de vote? Puis j'étais là, mais non, mais tu comprends que moi, si j'allais à l'association des pêcheurs de Chipagan, je suis pas pêcheur de Chipagan, donc si j'avais le droit de vote, ça serait stupide. Là, c'est une association féministe, et ça a été voté comme ça, donc oui, t'as pas rapport à voter, mais t'as rapport à participer. Donc, il y aura des liens que vous allez faire avec ce que je dis pour répondre à ta question, mais je crois que c'est très pertinent, cette question, faire attention aussi que ça soit pas récupéré. Mais je crois qu'on est loin du compte encore, de toute façon. Puis, comme pour le droit de vote, la fameuse question des hommes qui disent « j'ai pas le droit de vote, donc je viens pas », ça veut tout dire. Ça veut dire que le seul moyen pour t'investir, c'est d'avoir le pouvoir. T'as vraiment un souci. Enfin, c'est vraiment, t'es pas solidaire avec cette cause.
Je voulais en train de parler du senti. Le senti, dans le fond, c'est une pratique féministe qui fait en sorte d'avoir une personne en avant de l'Assemblée générale ou en avant de l'événement qui est facilement rejoignable. Donc, soit son numéro est public, soit ça peut être comme une autre plateforme. Nous, on utilisait les cellulaires dans l'endroit où je militais. Puis, dans le fond, la salle, s'il y a un malaise qui est ressenti ou une question, un commentaire qui n'est pas du tout passé, il y a des gens de la salle qui peuvent texter ce numéro-là en tout anonymat, en disant « moi, je n'ai vraiment pas apprécié ça » ou « il y a eu telle chose » ou « je pense qu'on devrait revenir là » ou « on a besoin d'une pause » ou... Puis ça permet à la personne qui a été choisie comme étant le senti de faire des points au fur et à mesure de l'assemblée en disant « bon, je ramène l'assemblée, je vous demande d'être... » de faire attention aux minutes que vous prenez, de rendre plus concis vos interventions, parce que là, vous parlez trop. Je demande aux hommes peut-être d'être conscients de leurs privilèges. Ça peut être les hommes, ça peut être les femmes aussi qui sont privilégiées. Fait que ça c'est une des choses. L'autre chose, puis là, je sais que le temps file, puis c'est exactement le problème qu'on a dans ce podcast-là. Vous comprenez pourquoi ça dure une heure. L'autre chose, c'est que je pense que ta question interroge vraiment le mouvement féministe dans une façon vraiment profonde. Beaucoup d'écoles existent. Il y a des féministes qui pensent qu'on devrait revenir peut-être à des modèles peut-être de non-mixité, justement pour garder un endroit, puis je parle de non-mixité, mais ça peut être aussi comme les femmes racisées, par exemple, d'avoir des endroits dans les collectifs de se retrouver entre personnes vivant les mêmes oppressions, vivant les mêmes expériences, pour se permettre de nommer ces oppressions puis ces discriminations-là. Fait qu'il pourrait y avoir il y a déjà cette école-là. L'autre école est vraiment dans, tout le monde est inclus, puis c'est pas grave, puis on réussit tous ensemble. Je te dirais que les deux comportent des grandes réflexions qui pourrait éventuellement changer la manière dont le mouvement féministe évolue, parfois pour le bien, dans le meilleur, parce que ça nous rend plus inclusifs. Puis à d'autres moments, effectivement, comme on l'a vu au sommet, ça peut avoir son lot de remise en question de ce pourquoi on s'est battu pendant tant d'années. Parce que parfois, puis moi je l'ai déjà vu dans des organisations, à force d'invisibiliser ce rapport de force-là qui existe encore, donc par les hommes privilégiés, donc les personnes qui s'identifient comme hommes, qui ont été socialisées comme telles, il peut y avoir vraiment là, un rapport de pouvoir assez instantané qui fait changer la roue de manière très rapide, puis qui invisibilise toutes les discriminations pour lesquelles on se battait. Puis ça, c'est, je crois, une interrogation puis une réflexion que le mouvement féministe devrait avoir. Je crois qu'on l'a. Tu sais, à force de parler de la participation des hommes au mouvement féministe, on finit par avoir des éléments de réponse. Aujourd'hui, moi, j'en ai pas à te partager, honnêtement. J'aimerais, mais je pense que je vous relancerai un peu le défi, puis tu sais, de vous-même voir justement, quelles sont les réflexions, puis où on s'en va dans un mouvement, dans des mouvements féministes, il y en a plusieurs aussi, et que ça serait une réflexion pour un prochain podcast, peut-être.
Merci beaucoup à la classe de travail social, femmes et changement social pour votre participation. On veut aussi remercier Kodiak FM qui nous a prêté de l'équipement afin de pouvoir faire l'enregistrement de cet épisode. Vous avez aimé ce que vous avez entendu à « On n'a pas toutes les réponses » On vous invite à nous écrire au podcast onptlr@gmail.com afin de suggérer d'autres sujets de discussion ou encore des invités. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram ou sur Facebook au @onptlr. Et si vous n'avez pas encore écouté nos premiers épisodes qui parlaient de la colère, des mouvements féministes puis du sommet des femmes, on vous invite à le faire. Nos épisodes sont disponibles sur différentes plateformes numériques comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud puis bien d'autres.